I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Louis.
Quand je pousse la porte du restaurant parisien C'est Lune, c'est un peu comme si je débarquais chez des copains qui m'invitent à dîner. Il y a de la musique à fond dans la cuisine, ça s'active, ça rigole, c'est hyper bonne ambiance. À première vue, on pourrait penser que tout roule. Le staff est joyeux et on se prépare tranquillement à accueillir les clients du midi. Mais en réalité, Bérangère est inquiète. Bérangère, c'est la patronne. La très jeune patronne. Elle n'a que 32 ans et elle a déjà son propre restaurant.
Tu veux un café ?
Franchement, avec grand plaisir.
Qui veut des cafés ?
Je m'étais dit, à 30 ans, je veux avoir un lieu. Un lieu où je peux partager, donner du bonheur, accueillir. Et puis moi, j'aime bien accueillir, quoi. J'aime voir les gens heureux. Donc... J'aime faire plaisir et du coup, je trouve que ça correspond bien à un restaurant pour faire tout ça.
C'était son rêve d'avoir son propre lieu. Manque de bol, le Resto C'est Lune a ouvert juste avant la pandémie. Résultat, depuis 2 ans, avec les confinements et les restrictions sanitaires, il n'est resté ouvert en réalité qu'une année, tout cumulé. Lorsqu'enfin les restos rouvrent au printemps 2021, Bérangère fait face à un nouveau problème majeur.
J'ai des gens qui passent, je forme des gens qui s'en vont au bout de 2 semaines, 3 semaines. Et donc depuis, en termes d'équipe, c'est fatigant parce que je donne beaucoup et que je reçois peu. Et après, en parallèle, le resto commence vraiment à bien fonctionner. Donc c'est assez frustrant de pas pouvoir tout le temps subvenir aux envies des gens puisqu'on a dû fermer les services du midi en septembre.
Par manque de personnel.
Par manque de personnel, ouais. Idéalement, il me faudrait quelqu'un plus en cuisine, un second ou chef de partie. Parce que là, je me dis juste, en fait, il me faut une force en plus. Donc, juste un peu de responsabilité à partager. Et j'ai le responsable de salle qui part aussi. Donc, il me faut aussi un responsable de salle. Après, j'avoue que j'ai pas de. Je suis un peu désillusionnée. Je commence à me dire qu'il va falloir que je m'y fasse. Parce que j'ai pas de vision sur la suite. J'arrive pas à savoir si des gens vont revenir bosser dans ce secteur, s'il va falloir qu'on se fasse à ça, ou qu'on attende des nouvelles générations qui vont se former et tout ça. Et comme je reçois pas plus de CV qu'il y a 3 mois, que j'ai pas plus d'entretiens, que j'ai pas plus d'essais concluants, je suis un peu désillusionnée.
Comme Bérangère, des centaines de restaurateurs rencontrent des difficultés à recruter en ce moment. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration aurait perdu 237 000 salariés à la suite des confinements, et il resterait encore 30% des postes non pourvus, selon des chiffres de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Plus d'un dixième des travailleurs auraient changé de secteur pour se reconvertir. Résultat, le métier de cuisinier, par exemple, fait partie des 10 métiers où sont signalées les plus fortes difficultés de recrutement en 2021. C'est ce qu'on peut lire dans la dernière enquête « Besoin de main-d'œuvre » menée par Pôle emploi et le Crédoc. C'est une étude qui est réalisée chaque année auprès de tous les secteurs professionnels pour étudier justement le besoin de main-d'œuvre en France. Dans cette étude, on constate aussi que les postes de serveurs de café, de serveurs de restaurant et de commis sont à la troisième place des métiers qui rassemblent le plus grand nombre de projets de recrutement en 2021. En d'autres termes, ce sont des métiers très recherchés en ce moment. Ça, c'est pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. Mais il y a plein d'autres secteurs qui sont actuellement confrontés à un problème de manque de main-d'œuvre. En premier lieu, il y a le secteur du soin, qui subit une forte tension, avec des métiers très recherchés comme aide à domicile, infirmier, aide-soignant. Il y a aussi le secteur du BTP qui est très en demande, le secteur de l'informatique ou encore le secteur de l'agriculture. Au total, ça fait plusieurs mois que la moitié des entreprises françaises disent avoir des difficultés à recruter, selon les derniers chiffres de la Banque de France. La question que je me pose, c'est comment est-il possible qu'il y ait une demande de main-d'œuvre aussi forte et en parallèle un taux de chômage qui lui reste assez élevé, autour de 8%. Comment expliquer ce paradoxe qui n'en finit plus de durer ? Je suis Camille Maestrachi, bienvenue dans Travail en cours. Alors, dans un premier temps, il faut comprendre pourquoi l'économie fait face à ces difficultés de recrutement et à ces pénuries de main-d'œuvre.
On a effectivement en France une pénurie qui est particulièrement forte en ce moment, avec une reprise de l'emploi extraordinaire, hein, on peut le dire, très rapide, massive, et qui touche l'ensemble des métiers, y compris les métiers qui avaient été très touchés et très arrêtés par la crise sanitaire.
Cécile Joly est économiste à France Stratégie, une institution autonome placée auprès du Premier ministre qui contribue à l'action publique par ses analyses et ses propositions.
Donc on a eu un dispositif d'aide qui a été très puissant, donc qui a maintenu d'une certaine manière toutes les capacités productives, tant du côté de l'appareil productif que du côté de la main-d'œuvre. Et donc au moment où on redémarre comme un seul homme, sauf qu'on part de très bas. Et du coup, encore une fois, tous les contrats qui devaient être arrêtés ont été arrêtés. Et là, tout le monde repart en même temps très fort dans tous les secteurs. Donc vous avez des métiers transversaux, les attachés commerciaux par exemple, ceux qui s'occupent de la logistique dans les entreprises. Ceux-là sont surdemandés. Les ingénieurs informatiques, puisque tout le monde veut numériser tout, aussi à cause de la pandémie et de la progression du commerce en ligne. Et donc, du coup, vous avez un appel en même temps de tout le monde. Donc, vous n'êtes pas dans un cycle normal, vous êtes en surchauffe. Et la construction, par exemple, a repris aussi très fort. Donc, c'est mathématique. Si vous avez 15 chantiers en même temps, vous rattrapez le temps perdu. Mais vous avez eu zéro le mois d'avant ou très peu l'année d'avant. Donc, vous rattrapez le temps perdu. Mais sauf que tout le monde rattrape en même temps. Tout le monde. Donc, on ne perd pas en termes de valeur. Donc, on rattrape très fort, ce qui est une très bonne chose pour l'économie. Mais qu'il y ait des tensions, ce n'est pas étonnant, on va dire.
Si la situation liée au Covid est exceptionnelle, ce n'est pas la première fois que l'économie française fait face à des pénuries de main-d'œuvre. Le meilleur exemple, c'est peut-être
la période des Trente Glorieuses, qui était bien supérieure à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on avait un niveau d'éducation qui était beaucoup plus faible dans la population française. Donc, on avait des carrières ascendantes en partant de rien. Parce que c'est ça que ça veut dire, les pénuries de main-d'œuvre. Ça veut dire aussi du pouvoir pour les gens qui travaillent. Et ça veut dire aussi des possibilités d'ascension sociale qui sont très importantes. Et la période la plus importante, c'était vraiment dans les années 50. Les années de reconstruction sont des années où on a des taux de croissance énormes, avec des besoins de main-d'œuvre énormes, et où là, les recruteurs, c'est pas, ils changent de mode d'alimentation des métiers. Ils prennent l'avion et ils vont chercher les travailleurs immigrés dans les montagnes kabyles. Donc, bon, quand même, quoi. On n'est pas tout à fait dans la même mesure, hein, si je peux me permettre.
Mais alors, justement, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que à ces périodes-là, le taux de chômage était très bas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Effectivement, on a un stock de chômeurs qui reste très élevé parce que on a aussi des métiers qui déclinent et on a aussi par rapport au passé des restructurations encore une fois qui sont beaucoup plus présentes. On a un turnover sur le marché du travail qui est beaucoup plus important. Les gens ne font pas une carrière dans une entreprise toute leur vie. Ils peuvent faire le même métier, ça oui. Mais en revanche, la vulnérabilité économique, elle est forte. Et certains métiers sont touchés plus que d'autres et ont beaucoup plus de difficultés à se reconvertir. Donc c'est en particulier vrai des métiers moins qualifiés, parce que la formation continue, elle reproduit d'une certaine manière les inégalités de formation initiale, que c'est les gens qui se forment le moins au travail, que aussi ils passent beaucoup de temps au chômage. Donc il y a beaucoup plus d'épisodes vers le chômage. Donc on fait du passage de l'emploi vers le chômage, puis du chômage vers l'emploi. Et effectivement, ça a des traductions dans les trajectoires, des trajectoires qui sont heurtées, mais qui sont difficiles pour les individus. Et on a aussi des trappes, tout un volant de personnes sur le marché du travail qui sont dans des trajectoires qui ne sont pas des trajectoires ascendantes. Et du coup, effectivement, on peut avoir temporairement, et on a un stock de chômeurs qui est relativement important.
Est-ce que le turnover dont vous parliez, il est lié quelque part aussi à ce qu'on appelle souvent la précarisation du marché du travail? Le fait que, comme vous le disiez, on passe de périodes d'activité à des périodes de chômage, qu'on enchaîne des CDD?
Effectivement, ça amortit bizarrement les périodes de crise. La difficulté, c'est pas tellement d'avoir des contrats courts, c'est que ces contrats courts ne débouchent pas sur une carrière pérenne. En fait, c'est ça la difficulté. Et c'est ces trajectoires-là qui sont problématiques. Qu'on puisse avoir une certaine forme de flexibilité puisqu'on a de la saisonnalité, etc., jusqu'à un certain point, peut-être. Mais effectivement, la difficulté, c'est qu'en France, comme en Italie ou en Espagne d'ailleurs, mais c'est pas vrai dans les pays du nord de l'Europe, les trajectoires de ceux qui sont en emploi plus précaire ne sont pas un tremplin pour un emploi stable.
La précarisation du marché du travail et la multiplication des contrats courts est une des raisons qui explique que le niveau de chômage ne baisse pas et reste aux alentours de 8%. Et ce, malgré les besoins en main-d'œuvre des entreprises qui cherchent pourtant à embaucher. C'est parce que le chômage est un problème structurel. Et c'est aussi le cas des pénuries de main-d'œuvre.
Alors, on constate qu'on a effectivement une pénurie de main-d'œuvre qui a un niveau comparable à avant-crise.
Ce que m'explique ici Cécile Joly, c'est que ce problème de pénurie de main-d'œuvre commençait à grossir avant la crise sanitaire. En 2020, avec une bonne partie de l'économie à l'arrêt, ça ne s'est pas tant fait sentir. On a eu une sorte de répit. Mais quand l'économie est repartie, on l'a ressenti d'autant plus fort. Le Covid est simplement venu attiser un problème déjà existant.
On a des raisons qui sont d'abord démographiques. Dans cette démographie, on est à la fois dans une période où la population active, dont celle qui va chercher du travail, les candidats potentiels, elle ralentit. En France, elle a beaucoup progressé parce que on avait une fécondité qui était relativement élevée par rapport à nos voisins européens. Aujourd'hui, la progression de cette population active se poursuit, mais elle est moins forte. Et en même temps, on a toujours des générations extrêmement nombreuses issues du baby-boom. Et donc le baby-boom d'après-guerre, on le fait commencer certes en 1945, mais ça s'arrête aux générations de 1974. Donc c'est très tardif. Et donc toutes ces générations-là, elles partent progressivement en retraite ou elles s'arrêtent de travailler pour d'autres raisons, soit familiales, soit de maladies professionnelles, soit simplement parce qu'elles n'arrivent pas non plus à retrouver de travail. Et du coup, on a beaucoup de création d'emplois en ce moment et on a en même temps beaucoup de départs en fin de carrière qui ont pu être un tout petit peu accentués peut-être par la crise sanitaire, puisque certains ont pu vouloir s'arrêter plutôt qu'ils ne l'auraient fait en d'autres temps.
Ces départs anticipés à la retraite, grande spécialité française, encore accentuée avec le Covid, on vous en parlait dans un autre épisode de Travail en cours, intitulé « Pourquoi les seniors quittent-ils le marché de l'emploi avant l'âge de la retraite ?» Mais donc, la première raison structurelle à la pénurie de main-d'œuvre, c'est le vieillissement de la population, qui conduit mécaniquement à un rétrécissement de la population active. Il existe aussi d'autres raisons, toujours liées à la démographie. Par exemple, le fait que certains métiers soient très genrés, comme les métiers du care pour les femmes ou l'informatique pour les hommes. Comme seulement une certaine catégorie de la population se dirige vers ces métiers, ça réduit logiquement le nombre de candidats. Et puis, il y a une raison démographique territoriale, c'est-à-dire qu'en fonction des bassins d'emploi, les besoins vont être supérieurs à l'offre. Par exemple, on va chercher beaucoup d'ouvriers agricoles dans des régions très rurales, sans que la main-d'œuvre disponible dans cette région ne soit nécessairement suffisante dans ce secteur. Autre explication, toujours structurelle, c'est le duo conditions de travail et rémunération. Bérangère en a fait les frais.
Ça faisait longtemps que je voulais faire ce métier, mais quand j'étais gamine, mon père me disait que c'était vraiment pas fait pour les femmes. Et parce que c'était quand même un milieu très machiste et que c'était dur physiquement, dur moralement, et que les horaires aussi étaient assez compliqués.
Il avait raison ou pas ?
Il avait raison, ouais. Ouais, ma première expérience me l'a prouvé direct. Violence, effectivement extrêmement fatiguée, des horaires, je faisais 80 heures par semaine.
Payé combien ?
Payé le SMIC, 1100 euros net. Donc, ouais.
À Paris,
ouais. Oui, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Et puis, de la violence, quoi. Enfin, je me suis pris des coups de poing dans le ventre parce que je coupais mal le saumon. Je me faisais traîner dans la cuisine par l'épaule, par le chef. Hein. C'était violent, quoi. Je rentrais le soir, j'avais envie de me pendre. J'y allais le matin, j'avais une boule au ventre. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi, il y a beaucoup de jeunes qui arrêtent la cuisine juste après leur CAP. Parce qu'ils sont passés par des maisons où les brigades sont grandes, où c'est hyper militaire, où les mecs en ont chié pour en arriver au poste de chef ou de sous-chef, et du coup, tout le monde prend, quoi. Donc, c'est sûr que quand t'es un gamin, t'as 14 ans, tu commences la cuisine, t'es traumatisé à vie, et en plus, t'as pas envie de continuer.
La crise sanitaire est venue s'ajouter à ce contexte très délétère. Dans de nombreux secteurs, comme la restauration, mais aussi le BTP, la santé ou l'agriculture, où les conditions de travail sont difficiles, un certain nombre de travailleurs, soit parce qu'ils ont dû stopper leur activité avec le Covid, soit parce qu'au contraire, ils ont été sursollicités, ont eu une véritable prise de conscience qui les a poussés à quitter ces secteurs.
Je pense qu'on a trop abusé, qu'on a tiré sur la corde, on a tiré sur l'humain. Il y a eu beaucoup de faux pas, il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de racisme, beaucoup de misogynie. Beaucoup d'horaires mal payés, hyper mal payés. En fait, on a abusé. Donc, c'est sûr que les gens se sont rendus compte aussi que c'était extrêmement fatigant comme travail. Ils ont découvert que les soirées en famille, c'était quand même cool. Que les horaires en coupure, c'était quand même un style de vie bien particulier. Que le fait de ne pas avoir de vie sociale, parce qu'on est toujours en décalé. Nous, on travaille toujours quand les gens arrêtent de travailler. Les week-ends, les jours fériés, les soirs. Toutes les grosses boîtes de restauration... te sortent des « ouais, mais aussi, les gens veulent plus bosser, c'est cette génération ». Mais c'est pas vrai, faut arrêter avec cette stigmatisation. Les gens ne veulent pas moins bosser qu'avant, il faut se remettre en question. Et pour moi, il y a un réel problème à ce niveau-là, c'est qu'il faut prendre le problème dans l'autre sens. C'est pas « les gens veulent plus bosser », c'est « on ne leur donne plus les conditions pour qu'ils acceptent de bosser dans des si mauvaises conditions ». C'est normal, Donc je pense que c'est notre faute et que c'est bien que ça mette un coup de pied dans la fourmilière et que, notamment sur les salaires par exemple, c'est très bien qu'on puisse augmenter les salaires, enfin que les gens se rendent compte que s'ils veulent de la main d'œuvre aujourd'hui, il faut payer plus. Moi je suis pour bien payer les gens.
Alors justement, payer plus, c'est une des solutions pour pallier ce manque de main d'œuvre. Le sujet est en ce moment sur la table des négociations.
Le gouvernement s'est beaucoup engagé pour incliner les partenaires sociaux à engager des négociations salariales. Dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, évidemment, mais aussi du commerce, et à revisiter tous les barèmes du SMIC, donc toutes les professions qui étaient inférieures au SMIC. Parce que selon ce que vous comptez comme heures, vous avez des heures travaillées, pas travaillées, mais en fait vous êtes là et vous travaillez, bref. Donc ça, c'est en train d'être négocié, donc ça c'est une démarche importante.
À l'heure où j'enregistre ce podcast, un accord est en bonne voie d'être trouvé entre organisation patronale et syndicat de l'hôtellerie-restauration pour une revalorisation de 16% en moyenne sur l'ensemble de la grille salariale. Mais l'augmentation des salaires n'est pas l'unique levier d'action. Comme l'explique Cécile Joly, pendant cette période où tout le monde recrute, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des gens qui licencient.
Il y a un dispositif qui s'appelle Transco, mais qui prend du temps à se mettre en place, qui essaye de faire des accords entre les secteurs en déclin et les secteurs porteurs pour transférer de la main-d'œuvre sans perte de salaire. Alors, on a eu, justement, entre les EHPAD, enfin Korian, et Accor, l'hôtellerie. Puisque l'hôtellerie, on en parle, a été très affectée par la crise sanitaire. Et elle, contrairement à la restauration, elle n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant-crise. Parce que il y a moins de tourisme d'affaires, il y a moins de tourisme tout court, il y a moins de tout ça. Donc, c'est un secteur qui débouche.
En gros, l'idée, c'est de faciliter le transfert de main-d'œuvre entre des personnes qui seraient licenciées, par exemple dans l'hôtellerie, pour les faire travailler dans des secteurs qui recrutent, par exemple dans les EHPAD. Autre dispositif, toujours pour mieux accorder la demande et l'offre d'emploi, c'est le développement de ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein des entreprises.
On a d'un coup des gens qui sont mis sur le carreau, brutalement, et des métiers qu'ils recrutent, mais dont ils n'avaient aucune idée avant, puisque ce n'était pas leur métier, justement. Donc, pour éviter ça, essayez d'avoir dans les entreprises une gestion prévisionnelle en disant, voilà, là, on anticipe qu'on va avoir des besoins là-dessus, mais aussi qu'on va avoir moins de besoins là-dessus. Donc, qu'à l'intérieur de l'entreprise, on puisse le faire et qu'on puisse aussi préparer la reconversion des salariés qu'on va être obligé de licencier à un moment donné ou à un autre si on ne les reclasse pas dans l'entreprise. Et puis, de la part des entreprises, il y a des risques aussi à prendre. C'est sûr que de la part des recruteurs, ils doivent sortir aussi de ce confort, hein, d'une certaine manière. On a encore une fois un système de formation magnifique, d'enseignement initial et continu, ok. Mais à un moment donné, quand on a des vrais besoins, on forme les gens soi-même aussi. Et ce n'est pas si compliqué que ça. On l'a déjà vécu une fois quand on a eu au tout début du boom informatique où les ingénieurs informatiques, il y en avait 3,5. qu'est-ce que les entreprises ont fait? Elles ont pris des gens diplômés de l'enseignement supérieur et elles les ont formés pendant un an. Alors, ça veut dire que vous les payez pendant un an. Et en fait, c'est ça, c'est qui paye. Donc, on a aussi cette question jusqu'où s'arrête le devoir de l'État. Et où commence celui de l'entreprise? Cette frontière est toujours floue. Et effectivement, sans doute, les entreprises ont été plus frileuses parce qu'il y avait beaucoup de chômage, parce que mais si elles continuent à recruter et si leurs affaires vont bien, elles auront aussi moins de mal à se dire on forme les gens.
Dans une tribune dans le journal Le Monde, l'économiste Emmanuelle Auriol propose une piste supplémentaire, l'immigration. Pour elle, la France a beaucoup de mal à attirer, produire et retenir les talents étrangers. Elle écrit, je cite, « À force d'avoir fait de la lutte contre l'immigration une priorité nationale, ce sont nos entreprises qui, faute de travailleurs et de talents extérieurs, finiront par immigrer ailleurs. » On cite souvent le cas de l'Allemagne comme un exemple d'une immigration de travail réussie, car le pays attire une main-d'œuvre étrangère qualifiée à dessein, notamment pour pallier le vieillissement de sa population, qui est beaucoup plus rapide qu'en France ou qu'au Royaume-Uni. Pour Cécile Joly, il faut nuancer. L'Allemagne et la France ont différentes traditions migratoires. Cependant, le recours à la main-d'œuvre étrangère n'est pas une piste à négliger.
On a des questions de transition entre la vie étudiante, la vie d'étudiant étranger, donc de statut, et ou le passage au monde du travail, donc qui est difficile en France comme dans beaucoup de pays, hein, qui est facilité sur certaines professions mais très peu, et qui effectivement pourrait être facilité. Alors il y a eu plein de propositions par le passé, il y a eu aussi des choses de fait pour faciliter ce passage, mais ça reste un parcours un peu du combattant. Mais encore une fois, c'est vrai aux États-Unis de la même manière. Et on a une difficulté là-dessus qui est sociale, où effectivement, quand vous rentrez en étant étranger sur le marché du travail, pour éviter le dumping social, hein, puisque c'est ça l'idée, donc c'est pas non plus une mauvaise chose au départ, hein, Donc, il faut faire très attention quand on fait des mesures en ce sens. Il faut que vous prouviez, en tant qu'employeur, que il n'y a pas quelqu'un de résident. Hein. C'est pas qu'un permis de séjour, il n'a pas besoin d'être français, mais qui est déjà là, qui peut avoir ce travail. Et souvent, c'est compliqué. Donc, on pourrait enlever l'opposabilité de l'emploi pour les étudiants étrangers.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a une myriade de possibilités pour améliorer l'efficacité du marché de l'emploi en France. Pour éviter que des chefs d'entreprise se retrouvent avec des postes vacants pendant des mois, qu'ils se retrouvent avec très peu de candidats et une production qui en pâtit. Pour éviter que des gens subissent une longue période de chômage dans ce contexte de pénurie. C'est un travail de fond parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le problème se résorbe d'ici à la fin de la crise sanitaire. Il a précédé la crise, il lui survivra. Pour ce qui est du resto de Bérangère, je dois dire que je ne me fais pas trop de soucis pour elle. C'est un peu à contre-courant de tout ce que je viens de dire, mais après avoir passé une demi-journée avec elle, j'avais presque envie de tout claquer et de venir bosser dans son resto. Elle respecte ses employés, elle les paye correctement, elle chante dans sa cuisine, et bonus, on y mange trop bien.
Au fond de moi, j'y crois. Je peux pas m'arrêter d'y croire. C'est trop difficile parce que, bah, parce que déjà, ça m'a coûté en termes d'humain. Enfin, je me suis mis à poil, quoi, en montant ce truc. Et en plus, ça fonctionne. J'ai des retours des clients qui sont super. Je vois que j'ai de plus en plus de réservations. Donc, le fond du restaurant fonctionne. Maintenant, je me dis juste. Qu'il faut que je me fasse, enfin, je me dis, bah, c'est OK, bah, j'aurai toujours un problème avec le recrutement. C'est un secteur où il y a beaucoup de turnover, il faut que je m'y fasse, il faut que je trouve des solutions. Mais surtout que je trouve des solutions pour que ça m'atteigne moins. C'est aussi que je suis une personne un peu hypersensible, donc je prends cher pour pas grand-chose. Mais non, je suis aussi une personne optimiste. Donc moi, je crois en l'évolution des gens, je crois en l'évolution du monde. Mais non, là, j'ai pas envie de finir là-dessus. je vais continuer quand même encore un petit peu.
Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. Louise Emerlé est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, Le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.